êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis l'Éternel pour votre vie. Je le bénis pour tout ce qu'il fait au travers de nous. Tout ce qu'il fait chaque jour en tout temps. Pour les multiples victoires invisibles qu'il nous donne. Est-ce qu'une chose est ce que nous voyons le Seigneur faire dans nos vies? Une chose est de voir qu'il nous a épargné des accidents, des maladies, de toute autre chose que nos yeux ne peuvent voir.
Mais
ce que nous ne savons pas souvent, c'est que les victoires invisibles, les choses que le Seigneur est en train de faire pour nous dans le spirituel, dans le surnaturel, est parfois plus grande et que nos yeux voient. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui dire merci. Lui dit merci en tout temps et en tout lieu. Lui dit merci pour son soutien invisible. Parce que l'homme ne regarde qu'à ce qui frappe les yeux. Et quand nous ne voyons pas des signes physiques de ce que Dieu fait dans nos vies, alors nous n'arrivons plus à avoir confiance et foi en Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous d'apprendre à louer le Seigneur en esprit et en vérité. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons avancer dans ce que nous avons appris depuis le mercredi. Nous irons encore plus loin. Le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas là, et le jeudi, nous étions en train de parler de la foi. La foi est importante pour notre vie, elle est importante pour notre vie chrétienne. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut acquérir, ne peut prendre ses bénédictions. Sans la foi, personne ne peut avoir toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu vis-à-vis à l'endroit de notre profession, à l'endroit de notre vie spirituelle, à l'endroit de notre situation matrimoniale, dans tous les domaines de notre vie.
Nous Vous ne pouvez jamais l'avoir si vous n'avez pas la foi. Et quand nous venons à Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Nul ne peut venir au Seigneur si le Saint-Esprit ne le convainc. Quand le Saint-Esprit te donne la conviction, tu viens de faire un grand pas. Mais quand tu rentres dans l'assemblée des saints et qu'on t'explique ce que venir à Christ implique et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux faire la confession de foi, et la phrase même l'explique, la confession de foi, alors tu ne peux pas faire une confession de foi si tu n'as pas la foi. La foi vient en même temps que nous recevons la conviction. Ou on peut même dire que la foi marche avec la conviction du Saint-Esprit. On peut dire que la foi est la sœur jumelle de la conviction. Et les deux sortent ensemble. Parce que tu n'es convaincu que quand tu as foi en celui qui te parle. La foi en thème simple, c'est quoi? On peut avoir foi en la parole de quelqu'un, on peut avoir foi en quelqu'un. Avoir foi en quelqu'un ou avoir foi en la parole de quelqu'un, cela suppose que vous croyez en la capacité de la personne, que vous connaissez la personne selon le domaine donné dans lequel il vous parle. Et vous savez qu'il est capable de le faire. Vous connaissez la nature de cette personne. Et vous savez la force de cette personne. Alors vous croyez en sa parole. On peut dire que vous avez foi à la parole de cette personne. Ou que vous avez foi en cette personne. Alors, donc, si je vous donne un exemple. Si la petite là se lève et va voir peut-être le frère et lui dit demain matin, je te promets que je te donnerai 500 000. Auras-tu foi en elle? D'autres auront foi en elle. Pourquoi? Connaissant l'enfant de qui elle est, on peut dire qu'elle a la capacité de le faire. Mais quand c'est l'enfant de quelqu'un que j'imagine qui se lève et qui vous dit ça, vous ne pouvez pas avoir foi, vous avez ri. Parce que cette personne, vous ne croyez pas à la capacité de cette personne, vous ne croyez pas à la force de foi, à la puissance de cette personne. Sa nature ne vous inspire pas confiance pour vous dire ça. Mais si moi-même je me lève, quand je dis à quelqu'un de vous, demain matin je t'embauche et je te paierai 100 000. Allez-vous me croire? Ah bon? Pourquoi? Donc vous savez que j'ai la capacité de vous embaucher, de vous payer. Donc vous croyez en ma parole de par ma capacité. Quand nous revenons à la foi chrétienne, cette foi que nous avons est une capacité à croire en Dieu en toutes choses. Même si nos yeux physiques voient le contraire, nous devons avoir la capacité de croire en Dieu, de croire en ce qu'il nous dit et de ne point douter, parce que nous connaissons sa nature, parce que nous savons quelle est sa force de frappe, nous savons quelle est sa puissance et nous avons déjà vu comment il agit auparavant. Pour cela, nous croyons en Dieu. C'est ça la foi. Et la Bible nous explique la foi en disant que c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration de celles qu'on espère. Ça dit, tu n'as pas encore reçu la chose, mais tu démontres. C'est parce que tu as foi en celui qui t'a fait cette promesse-là que tu démontres. Quand je te dis demain matin je t'embauche et tu ne feras rien d'autre dans ma maison que de s'asseoir pour ouvrir le portail et refermer, mais je te paye 100 000. Quand je vais vous dire ça et que vous croyez en ma parole, déjà quand vous allez vous lever d'ici, vous marchez comme quelqu'un qui gagne 100 000. Quand quelqu'un va vous rencontrer, alors que peut-être vous n'avez pas d'emploi jusque-là en rentrant dans cette salle, et on va vous demander qui êtes-vous présenté, vous vous présentez, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas dire je travaille avec telle personne. Est-ce que tu as déjà le travail? Est-ce que tu as déjà le travail? Mais tu dis je travaille avec telle personne. Et puis c'est un salaire bien payé. Et puis c'est 100 000 francs que je dois gagner. Ça c'est la foi. Nous exerçons cette foi-là pour les choses viles du monde. Nous exerçons cette foi-là dans les hommes. Mais nous n'arrivons pas à exercer cette foi-là en Dieu. Quand nous n'arrivons pas à exercer cette foi-là en Dieu, nous ne pouvons pas prendre les promesses de Dieu. Et parce que nous ne pouvons pas prendre les promesses de Dieu, beaucoup de chrétiens reculent dans la foi parce qu'ils pensent que Dieu est infidèle. Parce qu'ils pensent que la parole de Dieu est une chose et la réalité est une chose. Et ils se disent, ils finissent par être découragés parce qu'ils ont cru bêtement ce qu'on ne leur a pas dit. Parce qu'ils refusent de démontrer ce que la parole dit. De démontrer l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ. De démontrer la fermeté de leur attente en Christ. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens finissent par dire, on a déjà été à la messe plusieurs fois, on est rentré dans les histoires des chrétiens là jusqu'à. Laissez, on n'a rien vu. Ça ne marche pas. Moi, j'ai fini même à ne plus croire. Vous voyez des gens qui ont un certain niveau, ils sont rentrés dans la foi, ils les aiment pour tout et rien. Ils ne comprennent pas la parole, ils ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Et peut-être 10 ans, 15 ans après, ils sont frappés d'apostasie, ils sont froids dans la foi. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Et nous avons parlé rapidement de la foi en l'expliquant. Et nous avons dit qu'il y a le verset fétiche des chrétiens. Quand je dis verset fétiche, c'est pas beau. C'est-à-dire la chose à laquelle les chrétiens s'attachent, le verset à laquelle ils s'attachent. Ce verset, c'est « Seigneur, donne-moi une foi semblable au grain de sénévé. » Même une petite foi comme ça, comme tu as dit là, c'est fini, tout peut marcher. On dit « Tant que tu vas nous donner, Seigneur, cette foi-là, ça me suffit. » C'est vrai que Dieu l'a dit. Nous irons dans Luc 17, 6. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous a dit là. Ce qu'il nous a dit par rapport à la foi. Luc 17, 6. Soyez des élèves assidus dans la maison de Dieu. Soyez des élèves assidus dans la maison de Dieu. Comme ça, on ne va plus toujours revenir en arrière. Luc 17, 6 dit, le Seigneur répond, si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. Il vous obéira. C'est ça, non? Ou bien ailleurs, dans d'autres versions, il dira, si vous avez une foi semblable au grain de sénévé, ou bien, Vous surtout dans la version Louis II, si vous avez une foi semblable au grain de Sénévé, vous pouvez ordonner à ce sycomore. Arrache-toi, sycomore, ça dit l'arbre, c'est un arbre. Arrache-toi de là et va te planter maintenant dans la mer. Et cet arbre vous obéira. Alors, beaucoup de chrétiens s'attachent à avoir, s'attellent à avoir une petite foi seulement, ça suffit. Je veux, Seigneur, juste une petite foi et on prie sincèrement avec force. Donne-moi cette petite foi, Seigneur. Je peux ordonner à ma situation. Bien-aimé, quand tu commences par prier avec ce verset-là, comme ça, dans ce sens, tu te perds. Une petite foi fait de petites œuvres. Une grande foi accomplit de grandes œuvres. Et quand Jésus nous dit, parce que Jésus aime beaucoup les paraboles, quand il dit, si vous avez une foi semblable au grain de Sénévé, Jésus est en train de nous dire quelque chose que nous n'avons pas compris. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est ça que nous devons comprendre. Et pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire, nous irons dans Marc 11:23. Parole de vie dit ceci. Supposons ceci. Et Jésus ne dit pas que c'est comme ça, il dit supposons. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Dieu la réalisera. Si cette personne ne doute point, si cette personne n'hésite point, si tu as une petite foi, comme tu demandes à Dieu, parce que tu n'as pas encore la foi, tu ne connais pas encore l'explication de la foi, et tu lui dis de te donner une petite foi, et Dieu te donne cette petite foi-là, maintenant tu te présentes devant une montagne, tu vas à Savalou. Tu vois, ou bien tu vois les mamelles de Savelle, les trois ensemble là.
Ah bon,
et tu restes là. Et tu dis, je t'ordonne, toi, au toit de là, jette-toi dans la mer. Est-ce que toi-même, tu vas croire en ce que tu dis? Ah, les gens rient. Toi, mais dis-moi, est-ce que tu vas croire? Pourquoi tu ne vas pas croire? Parce que tu vois que la montagne est plus grande que ta petite foi. Et le doute commence quand tu réalises que cette foi-là est petite. Et le doute commence parce que tu te dis, ah, Dieu, toi aussi, t'as les foutaises d'un. Tu as dit, foi comme le grain de Sénévé. Tout petit comme ça, tu es. Regarde trois montagnes, tordues. Tu ne peux pas croire. C'est là que se situe notre problème. Parce que nous ne comprenons pas ce que Jésus était en train de dire par là. Et pour être clair, comme Jésus dit quelque chose, nous ne comprenons pas. Il prend toujours les mêmes paraboles et il les transforme afin que nous puissions comprendre. Jésus n'est pas en train de nous dire d'avoir de petite foi. Jésus n'est pas en train de nous dire d'avoir une petite foi. Il était en train de nous parler en parabole. Mais qu'est-ce qu'il veut bien dire en disant ça? Il faut bien que nous cherchions ce qu'il dit. Nous irons dans Matthieu 13, du verset 31 au 32. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Là, c'est différent. Jésus leur raconta. Et ici, on dit que Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Ils n'ont pas compris. Parce que quand il parle d'avoir une foi semblable au grain de Sénévé pour ordonner à l'arbre de se déraciner et d'aller se planter dans la mer, ils n'ont pas compris.
Ou bien quand il demande, ordonne à cette montagne de quitter là, au toit de là, jette-toi dans la belle, la montagne va obéir. Jésus ne parle pas toujours des montagnes et des arbres physiques. L'arbre dont Jésus parle, les montagnes dont Jésus parle, c'est des problèmes auxquels tu es confronté. Les situations qui arrivent dans ta vie, toutes les preuves dans lesquelles tu peux passer. Jésus dit, exerce ta foi là, exerce ça. Ta foi qui est comme, on a parlé ta foi qui est le grain. Ta foi semblable, semblable au gré de s'élever, utilise cette foi-là en donnant la situation. Tu es dans le célibat et tu as reçu la confirmation du Saint-Esprit que le célibat n'est pas ta portion. Que ça fait partie des promesses de Dieu pour toi. Tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter. Ou bien dans tes affaires, tu es stérile financièrement. Financièrement, tu es stérile. Tu es professionnellement stérile parce que tu ne sais rien faire. La stérilité, c'est sur plusieurs formes. Jésus ne te demande pas de pleurer. Jésus ne te demande pas, oh Seigneur, tu es où? Jésus ne te demande pas de courir de pasteur en pasteur. Il ne te demande pas de courir d'église en église. Mais Jésus te demande ce qui est en toi, parce que lui, il est déjà en toi. Et il agit au-dedans de toi. Et il agit par toi, pour toi. Et toute la puissance est déjà en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Tes incapacités anciennes sont passées. Les problèmes auxquels tu es confronté, tu ne trouves pas de solution, c'est passé. Ton ancienne vie est passée. Ancienne vie de péché est passée. Tu dois maintenant t'appliquer sur la parole de Dieu. Et à partir de cet instant, tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personne conduite par l'Esprit de Dieu. Une nouvelle personne que Christ conduit. Et Christ est en toi, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, que Christ est en toi. Jésus est en train de dire tout simplement, aussi petitement que tu le reçois là, ça suffit pour ordonner. Et face à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Il te demande simplement, ordonne. Ordonne à la situation. Pour ordonner à la situation, c'est que tu connais ton identité. Tu connais qui tu es. Tu connais la capacité de l'âme que tu tiens en main. Si je peux avoir un AKM ici, et puis les petits bandits viennent, les Obokwala viennent avec leur bâton, avec leur petit couteau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la petite dit tirer. Donc je ne cours pas. Je ne vais pas courir pour aller me cacher. Je dis. C'est ça. Ça suppose que tu connais ton identité en tant que chrétien. Donc quand les petits démons s'agitent, les petits démons qui te font pleurer, qui te donnent l'insomnie, un chrétien, il faut avoir honte. Tu as reçu Christ. Tu n'as pas honte. Petite situation, tu pleures, tu dis, Seigneur, et puis tu maigris. On te voit, ton cou est long. Ah, tu connais ton identité en Christ. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu portes. Tu sais le tabernacle de qui tu es. Quand Dieu se déplace, il se déplace avec son armée. Donc si Christ est en toi, l'armée céleste est en toi. Tu n'es plus n'importe qui. Tu dois connaître ton autorité. Alors tu ordonnes à la situation. Tout comme tu prends ton AKM. Et cela suppose que tu sais tirer. Cela suppose que tu connais la valeur de ce que tu as en main. Si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as en main, si tu ne sais pas sa capacité, à quoi ça sert, et tu gardes ça en main, jouer. Les enfants utilisent avec. Tu ne sais même pas où se trouve la gâchette. Ils vont te frapper avec les machettes. Tu ne vas jamais oublier. Mais quand tu connais la capacité de ton homme, tu connais sa valeur. Tu sais ce que cela représente. Quelqu'un s'amène. Tu prends. Tac, 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 tac. Et c'est terminé. Jésus dit, il fait une autre comparaison parce que là où il veut en venir, ils ne comprennent pas.
Et Jésus
dit que là où je veux en venir, toi aussi, tu ne comprends pas encore. Tu es en train de comprendre. L'Esprit de Dieu t'aide à comprendre. Mais tu n'as pas encore compris. Quand tu vas comprendre tout à l'heure, c'est là où tu diras, ah, longtemps j'ai fait ça. Jésus fait une autre comparaison. Et il dit, le royaume des cieux ressemble à ceci. C'est quoi le royaume des cieux? C'est la capacité de Dieu. C'est la richesse de Dieu. C'est tout ce que Dieu possède. C'est tout ce que Dieu est. Dans le lieu où il réside. Parce qu'un royaume, c'est le lieu où réside un patron, un chef, un roi. Donc il dit, la richesse de Dieu, les bénédictions de Dieu, la capacité de Dieu, les bénédictions de Dieu ressemblent à ceci. Hein? Pour avoir ce que tu cherches depuis 15 ans que tu es chrétien et puis tu pries. Ce que tu recherches depuis 5 ans et puis tu n'as pas trouvé. C'est vrai qu'on ne vient pas à Dieu pour posséder les choses. Mais on vient pour lui obéir. On vient parce qu'il est notre Seigneur. Et un Seigneur a besoin de serviteurs. Un serviteur sert son maître. Ou bien c'est pas comme ça. Alors, c'est pourquoi quand moi je prends un serviteur, c'est pas que je vais brimer le serviteur, je vais me mettre en position de force, faire de dictature sur le serviteur. C'est pas de le dominer n'importe comment. Mais si je suis le Seigneur de ma maison, et que quelqu'un rentre dans ma maison, et que la personne est mon serviteur, la personne reste sous mes lois.
Mais on donne un nom.
Ce que je dis, on fait dans ma maison, c'est ça, on fait. Ce que je dis, on ne fait pas, tu ne fais pas. Même si ça ne te plaît pas, tu ne fais pas. Même si je dis ça, là, non, ne fais pas, ça te plaît, tu ne peux pas le faire.
Parce que
je suis le Seigneur. C'est de la même façon, Jésus est notre Seigneur.
Donc,
quand nous venons à lui, nous devenons ses enfants, ses serviteurs. Nous devons faire ce qu'il dit. On ne peut pas dire, ah non. Moi là, quand je prépare là, je ne mets pas cube. Donc je ne mets pas cube. Si la personne te dit, c'est cube, je mange. Toi, tu vas dire que tu ne veux pas faire cube. Parce que tu es qui? Si Jésus est notre Seigneur, et puis nous sommes ses serviteurs, nous faisons ce qu'il dit. Et il dit, si nous faisons ce qu'il dit là, il va nous donner ce que nous voulons. Si mon serviteur m'obéit, si mon serviteur fait ma volonté, je peux choisir à la fin du mois, non seulement lui donner son argent, mais lui faire encore cadeau. Pendant que mon serviteur fait ce que je veux, je peux lui donner des habits, beaucoup de cadeaux en plus. Ou bien, mais ça suppose que mon serviteur m'obéit. Sinon, il ne peut pas bénéficier de cela. En tant que serviteur de Dieu, nous devons faire ce qu'il veut. Et c'est à lui de nous donner les bénédictions que nous voulons. Ou les choses que lui veut. Les choses qu'il nous avait promis. Ou les choses qu'il veut. Et qu'il sait qu'il est bon pour nous. Alors Jésus dit, que le royaume là est semblable à ça. Pour le servir, pour prendre ses biens, ça ressemble à ceci. Ça ressemble à quoi alors? Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Un homme prend la plus petite des fois. Comme le grain de sénévé. Quand il vient faire sa confession de foi. Parce que c'est cette graine de foi là qui fait qu'il a fait la confession de foi. C'est une confirmation de sa foi. Parce que cette graine là qui est en lui, il a reçu la graine, l'impact.
Il prend ça et sème ça où? Dans son cœur. Et il n'a pas fini. Il dit, c'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, donc cela suppose que quelque chose doit pousser. Il ne suffit pas de recevoir quelque chose ou garder seulement n'importe où et en faire n'importe quoi. Quand tu reçois quelque chose, la chose doit pousser, la chose doit grandir, la chose doit monter. Et c'est dit que pour obtenir ces bénédictions et ces grâces, pour obtenir son grand trésor qui est son royaume, pour l'obtenir lui-même en entier, c'est comme un homme qui a pris un grain de sénévé. L'étape à laquelle tu prends la foi, là, tu rentres dans la foi, là, tu es encore bébé. C'est pourquoi on dit les plus petits dans la foi. Et on dit les nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est un bébé, non? Un bébé a pour vocation de rester bébé jusqu'à l'âge adulte. Donc, le jour où tu fais, tu accouches, tu es un bébé là. Tu es bébé à vie. Tes parents vont te jeter. Ou bien, est-ce que vous, répondez-moi, est-ce que vous pouvez faire un enfant? L'enfant se met bébé jusqu'à un an, deux ans, l'enfant est bébé. 5 ans après, il est bébé. 10 ans, il est bébé. 20 ans, il est bébé. 30 ans, il est bébé. Hein? Ah, quelqu'un dit, mais non, Dieu, t'as pas la voix de jeter, il faut dire ça. C'est un mot. Ça, c'est un mot, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi tu vois, pourquoi là où je veux en venir en 10 ans? Quand tu dis, Seigneur, donne-moi une foi semblable au gré de Sénévé. Donc ta foi va demeurer bébé pendant tout ton temps que tu passes sur la terre. Et on fait cette prière avec ardeur. Et la tête va tomber. Alors que tu ne dis rien de bon. Et parfois, quand tu reçois le don de la foi, parce que le don de la foi est différent de cette foi dont on parle. Le don de la foi, c'est la capacité de Dieu qui te vient quand il y a une situation. La capacité de Dieu qui te vient d'un coup. Et tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est un don qui te vient et tu les cesses. Quand ils finissent, ils reviennent au même niveau. Ils étaient où avant? Mais c'est ça la foi. Vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu. Parfois, ils opèrent des miracles de guérison. Parfois, ils ressuscitent les morts. Mais le lendemain, si tu l'entends parler, toi, mais il dit, ah, et au salaire, il y a une force en bas. Ce n'est pas, ça peut ne pas être forcément une autre puissance. Ça veut dire que Dieu lui a donné le don de la foi juste pour les malades qui sont là. Et parce que sa foi est toujours à l'étape de grain de sénévé, il redevient encore papa bébé. Il est important que la foi grandisse. Très important pour nous que notre foi grandisse. Alors Jésus dit, mais quand elle a poussé, donc ça veut dire que la foi doit pousser en nous. C'est la plus grande des plantes. Mais cette foi-là doit pousser comment? Pour que ta foi pousse, tu dois être dans la parole à tout moment. Tu dois être en train de méditer la parole à tout moment. Tu dois vivre par la parole. Tu dois parler par la parole. Tu dois agir par la parole. Et tu vas laisser ce que la parole te défend de faire. La parole te dit ne fornique pas, ne fornique pas. La parole te dit ne vole pas, ne vole pas. Même si tu es chrétien, quelqu'un vient t'apporter une affaire. On dit l'affaire va te générer tel intérêt.
La fête va te générer tel intérêt.
Toi-même,
tu sais que c'est contre la parole de Dieu. Les
moyens
par lesquels la personne veut passer là.
C'est
pas bon. Mais tu vas dire en tout cas, tu as dit, je permettrai aux païens d'amasser pour venir me bénir. On commence à chercher les versets. C'est comme ça Dieu t'a dit.
Oh,
c'est comme ça Dieu te bénit. Tu sais bien que c'est contre la parole de Dieu. Tu sais bien que Dieu a dit qu'on te servira avec la mesure que tu as utilisée pour
te faire.
C'est la même façon que Dieu va te laisser, tu vas faire. Si la parole te dit ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Avant, je convoitais beaucoup les employés des gens. Et puis le diable sait que par là, là, c'est le seul moyen où Dieu peut permettre que quelqu'un vienne m'arracher aussi, convoiter aussi mes collaborateurs. La Bible dit ce que vous faites à autrui, on vous le fera. Quelqu'un a voulu bien faire, la personne a voulu vraiment bien faire. L'aider en m'amenant n'était prête. La personne, ce n'est pas de mauvaise foi que la personne m'a amené n'était prête. Et c'est un interprète qui est très bien en plus.
Mais
l'interprète là est dans une église.
Et
les est parfois dans une église. Cette personne n'est pas interprète principal. Mais c'est que quand il n'y a personne, c'est elle qu'on utilise pour interpréter. Elle est arrivée. Et quand j'ai essayé, c'était doux. Hein? Donc c'est fini, je suis sauté dessus. J'ai dit voilà. Et on commence comme ça. Premier rendez-vous, la personne n'est pas arrivée. Deuxième rendez-vous, la personne n'est pas arrivée. J'étais énervée. Je voulais dire, mais est-ce la joue ou quoi? Et le Saint-Esprit me dit, attends. Elle ne se la joue pas, elle est dans une église. Elle le sait quelque part. Elle est utile à un serviteur de Dieu quelque part. Non loin de toi, non. Si c'était toi, quand ton interprète s'en va comme ça,
on
va te réjouir le cœur. Laisse la partie.
Dieu donne.
Je dis Seigneur merci. Si la foi n'avait pas commencé par pousser, et que c'est une foi bébé, je n'allais jamais comprendre que la convoitise comme ça dans ce sens-là était mauvaise.
Ou bien,
humainement, est-ce que c'est mauvais? On vous apporte quelqu'un. La personne même dit que là, elle va venir. Est-ce que c'est mauvais? On peut se dire, tu fais un peu ici, tu fais un peu là-bas. Or, la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres. Il a méprisé forcément un. C'est pourquoi elle m'a méprisé au profit des siens, de là où elle était. Mais je
ne
vais pas lui en vouloir pour ça. Je ne vais pas en vouloir non plus à celui qui me l'a cherché. Mais dans la parole, c'est mauvais. Le Père a dit, ça là, tu ne fais pas. Donc, je ne fais pas. C'est ça la capacité à obéir à la voix de Dieu. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Ça t'arrange, ça ne t'arrange pas. Tu fais ce que la parole dit. Tu sèmes la parole dans ton cœur. Mais pour que la parole puisse pousser, pour que la foi grandisse, tu es obligé de faire ce que la parole te dit de faire. Regarder la parole, connaître la parole, méditer la parole. Et je dis méditer la parole ne veut pas dire lire la parole. Lire, c'est lire, mais méditer la parole, c'est de chercher à voir la révélation cachée de la parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc cette parole a une vie, a un esprit. Donc quand je lis la parole, je dis Seigneur, quelle est la vie actuelle de cette parole par rapport à tel sujet? Donne-moi la vie de la parole. Longtemps on a lu cette parabole. Cette parabole de Matthieu 13, 31, 32, on a lu ça longtemps. Mais on a toujours compris ça autrement, autant que vous avez compris ça autrement. Ça ne veut pas forcément dire que l'interprétation que vous avez de ça, elle est fausse. Quand on va prendre par exemple cette parole, qu'on la pratique professionnellement, ça voudrait dire que le petit, c'est-à-dire la somme, la plus petite somme que tu as, sème, arrose, commence avec. Elle va commencer par pousser. Quand elle va commencer par pousser, elle deviendra un arbre. Une bénédiction. Un arbre où les oiseaux viendront rester dedans. Ça veut dire quoi? L'arbre va grandir. Les gens viendront travailler pour toi. Les gens aussi vont bénéficier de ça. C'est la vie de cette parole professionnellement, ça. Mais quand je prends la foi, la vie de cette parole, je n'ai pas de prendre mon argent, de se mettre à quelque chose, j'aurai une bénédiction. Non. La vie de cette parole, c'est que ma foi, quand je la prends toute petite, je travaille à cela. J'arrose pas la parole de Dieu. Pas l'obéissance à la parole de Dieu. Je profite du soleil, les rayons du soleil. Qu'on appelle l'amour de Dieu. Et je mets ça dans la profondeur de l'amour de Dieu. Tout cela enfoui dans la tête de mon cœur. Ça va pousser.
Et là où?
La parole est esprit et vie. La vie évolue. C'est pas comme ça que tu étais il y a 2 ans. Hein? Tu n'as pas changé. Et pourquoi? Ta foi ne va pas changer d'étape. Pourquoi ta foi ne va pas grandir? Si tu manges, tu grandis, tu nourris ta foi doit grandir. Il ne faut pas se faire des jeûnes à ta foi. Ah non! Si toi tu manges, tu bois. Encore que l'eau est beaucoup plus vitale. Quelqu'un peut ne pas manger peut-être encore pendant un mois, même 6 mois, il sera chétif. Mais le jour où il arrête de boire, il meurt. C'est-à-dire que quand l'eau qui est dans son corps là va partir, ce ne sera jamais la même durée que la nourriture. Il va mourir. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il va mourir. Alors tu veux que ta foi jeûne. Mais tu ne veux pas l'arroser. Est-ce qu'on plante une plante sans arroser? Toute plante qu'on met sous terre, on l'arrose, non? Mais pourquoi tu ne veux pas arroser ta foi? Pourquoi tu ne veux pas l'arroser? Tu dois prendre la parole de Dieu pour l'arroser chaque jour. Tu arroses ta foi. Et tu cherches des choses. Quand on plante une plante là, une graine, qu'est-ce qu'on fait au village? On met des briques tout autour. Ou bien on met un panier autour. Ou bien on met une bassine. Pourquoi? Pour que les animaux ne passent pas piétiner ou manger. Pour que les enfants ne s'amusent pas avec. C'est la même façon que tu dois préserver ta foi. Tu ne dois pas laisser ta foi n'importe où. N'importe qui piétine ta foi. Tu ne dois pas aller faire le vagabondage spirituel. Parce que quand tu commences à faire le vagabondage spirituel, ta foi va mourir. Même pour arroser les plantes, si tu n'es pas jardinier, si on ne te l'apprend pas, on n'arrose pas toutes les plantes de la même façon. Et il y a une quantité d'eau que la plante doit recevoir quand c'est le matin. Il y a une quantité d'eau que la plante doit recevoir quand c'est le soir. Il y a des plantes qu'on arrose pas à midi, il y a des plantes qu'on arrose à midi. Mais à une certaine quantité d'eau. Mais si tu ne connais pas ça là, si tu ne prends pas des garde-fous autour de ta foi, que tu te vagabondes spirituellement. Le vagabondage spirituel c'est quoi? Onction de guérison ici. Tu cours. Je suis malade depuis 30 ans. La même maladie, tu trimbales d'église en église. Tout le monde prie pour toi. Ça ne peut pas marcher parce que tu n'as pas la foi en ce que les gens déclarent. Si ton esprit ne s'accorde pas sur la déclaration, c'est impossible. Le serviteur de Dieu peut avoir n'importe quelle onction. Il peut être puissant n'importe comment. Si tu ne manifestes pas ta foi, tu n'auras pas ta guérison. Tu cours d'église en église. Je suis dans telle situation. Et toutes les églises te connaissent. Quelqu'un te voit, il y a des gens qui sont des champions de marche dans les églises. Je ne sais pas ce que ces gens de chrétiens recherchent. C'est mon témoignage. Et puis tu te dis, c'est pas ça elle était venue faire ici la dernière fois, on a prié pour elle. Et les gens vous donnent les jeûnes mycélines. Hein? C'est ça que moi j'appelle le jeûne mycéline, des comprimés de jeûne. Une semaine. Deux semaines de jeûne sec. Trois jours de jeûne sec. À Chokui, c'est toi-même qui cherches. Et tu as trouvé. Le vagabondage spirituel ne te fait rien, ta foi balance. Tu reçois n'importe quelle eau pour ta foi. Tu reçois l'eau sale, l'eau crottée, n'importe quelle eau. N'importe quelle quantité encore. Quand la quantité est trop, quand tu vas maintenant planter ta foi comme une graine dans le fleuve, ça va mourir. L'eau est vitale. La plante a besoin de l'eau pour grandir. Mais pas n'importe quelle quantité d'eau. Pas n'importe quelle quantité d'eau. Quand tu mets ça dans l'eau, dans le fleuve, la plante va mourir. Ça ne va pas germer. Et tu vas quand même dire, mais c'est dans l'eau que j'ai fait ça. Elle ne reçoit pas, il y a des conditions pour cela. Ta foi ballotte. Et tu vas n'importe où. Tu vas attraper la coqueluche spirituelle. Tu manges tout. Tu n'as même pas le discernement. N'importe quel escroc se lève. La Bible a dit, toi-même, tu as fini. Ta foi, là, tu l'as en train de la planter dans le fleuve. N'importe quel imbécile se lève. La Bible a dit, quand tu attends, la Bible a dit, non, ce n'est pas le discernement. Cherche le discernement. Demande au Saint-Esprit de te donner un esprit de discernement. Pour préserver ta foi. Pour garder jalousement ta foi. Ta foi doit être pour toi comme de l'œuf. Il ne doit pas tomber de tes mains. Parce que si jamais elle tombe, elle casse. Et tu dois veiller au grain sur ta foi. Comme on veille sur le lait au feu. Veille à ce que cela ne tombe pas. Parce que quand ta foi atteint ce niveau, commence pas à pousser. Mon frère, ma soeur, il y a des prières que tu ne peux plus faire. Il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. Il y a parfois des situations. J'ai dit, hein, ces situations. Ça ne m'affole pas. Et parfois, je me demande, mais pourquoi je suis comme ça? La Bible me dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve mon repos. Mais si je dois courir pour tout, si ma foi a atteint ce niveau, c'est parce que je suis dans la parole et je recherche la vie de la parole, je recherche l'esprit de la parole par rapport à cette situation. C'est ça, c'est ton problème. Mon frère, ma soeur, c'est ton problème. Ça. C'est là où se situe ton problème. Ta foi doit grandir. Tu dois l'arroser avec la bonne eau. Tu dois veiller là-dessus. Tu n'accepteras pas n'importe quoi. Tu mets des gardes fous autour. Et tu préserves cette foi-là. La seule eau que tu reçois, c'est sur la foi. C'est la parole. La vraie parole. La parole qui vient de la part de Dieu. C'est ça le plus important. Maintenant, pour avoir, elle dit, quels sont les fondements de cette foi-là que nous devons avoir? Ce n'est pas évident quand on achève aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, puisque l'heure est déjà avancée, par la grâce de Dieu, nous allons le faire le jeudi prochain. Pour que ta foi soit solide, pour recevoir les vrais fondements de ta foi. Parce que quand tu veux bâtir une maison, c'est comme si tu veux faire pousser une plante. Mais pour que la maison soit élevée et résiste,
Il te faut faire un bon fondement. Si tu veux construire ta maison, tu creuses un petit trou, tu mets des briques dedans, tu montes. C'est ça un constat dans notre pays où les immeubles s'écroulent. Des immeubles qui n'ont pas de normes. Des aides-maçons qui deviennent des maçons. Parce que même parce qu'ils ont aidé les maçons, ils pensent que bon, bon c'est fini, nous aussi on peut devenir maçons. C'est ça que je dis aux collaborateurs. Quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est valable pour vous aussi. Quand vous travaillez avec quelqu'un, votre patron ou bien quand vous faites, vous voyez quelqu'un faire ça, commerce, faire les choses, ça vous plaît, vous vous dites c'est trop banal, il gagne trop d'argent. Ou bien peut-être on dit, tu dis que être électricien là c'est facile, hein? Le monsieur là il a beaucoup d'argent, hein? Moi aussi je vais aller faire parce que tu as été son apprenti. Et une fois, deux fois, il te dit va chercher la voiture là. Ou bien peut-être quelqu'un commence par acheter les pièces, mais il va au Nigeria. Quelqu'un achète les pièces du Nigeria, là, mais tu dis que c'est ça qui marche. Parce que peut-être tu es son coursier et tu restes à côté de lui et tu arrives à la frontière, tu l'aides. L'homme va chercher les moyens d'avoir l'argent quitté à côté de celui auprès de qui il est pour aller commencer la même chose. Il faut le laisser, il faut prier pour eux que ça commence. Quand il va aller, s'il ne connaît pas les chemins qu'on prend, s'il ne sait pas les différentes étapes au niveau de la frontière, s'il ne sait pas que le Nigeria est un pays dangereux et qu'il faut faire attention en allant, s'il ne connaît pas le pays bien, s'il ne connaît pas d'autres fournisseurs que votre fournisseur, peut-être que votre fournisseur vous vend trop cher, il y a d'autres fournisseurs moins chers. Tu vas se jeter dedans. Il dira passer de l'argent dans une institution pour faire ça. Une semaine. Il va comprendre. C'est là, là, on dit, ah, mon patron là, je le félicite. Parce que... franchement, c'est dur, hein? C'était dur. Donc, pour que notre foi soit solide, comme un bâtiment, nous devons creuser autour. On ne va pas utiliser seulement du ciment, hein? On va mettre des barreaux de fer. Ou bien, on va utiliser, pour faire le béton, on utilise des gravillons, voilà. Comme ça, quand le fondement est solide, ça peut bouger. Rien n'arrivera. C'est pourquoi, première chose pour le fondement de notre foi, c'est de connaître la nature de Dieu. Pas où j'ai commencé. Quand vous connaissez la nature de quelqu'un qui vous promet quelque chose, ça consolide votre foi. Parce que vous connaissez sa capacité. Vous connaissez son pouvoir. C'est pourquoi il est important pour nous de mettre notre foi en Jésus-Christ. Fonder sur lui et rien que lui. Alors si aujourd'hui tu t'engages à vivre une vie de foi dans tous les domaines de ta vie, nous allons passer dans un temps de prière pour que le Saint-Esprit t'aide à entrer dans cette nouvelle dimension, que ta foi ne soit plus simplement à l'étape embryonnaire. Que ta foi ne devienne pas seulement une graine de sénévé à vie. Mais que ta foi soit aussi petite que la graine de sénévé, que tu la plantes dans ton cœur.
Et
que chaque jour tu l'arroses par la parole de Dieu.
Bon, azanle bidio anino awusini
que tu médites la parole tous les jours.
Bon, non,
ainsi tu vas réussir dans toutes tes entreprises.
Bon, finalement,
et la réussite de ton entreprise
ne
sera rien d'autre
et n'a
que ta foi qui va pousser et porter
nous
des fruits. Et si ta foi grandit, tu peux te tenir devant les montagnes. Même en face du mont Kilimandjaro. Et tu vas dire mont
Kilimandjaro.
Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Parce que ma foi est beaucoup plus grande que toi. Et tu ne douteras point. Et tu le verras s'accomplir
dans
que le Seigneur nous bénisse.
Nul ne sait ni le jour, mais le maître.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir. À Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.